Lizzie présente Le Roi des Cendres de S.A. Cosby. Lu par Laurent Blanpin. Celui-ci est dédié à Todd Robinson. Longue vie aux voyous. La mémoire croit avant que la connaissance ne se rappelle. Croit plus longtemps qu'elle ne se souvient, plus longtemps que la connaissance ne s'interroge. William Faulkner, Lumière d'août. Tous les empires sont créés de sang et de feu. Pablo Escobar. Chapitre 1. Il rêve de sa mère. À travers le filtre sépia du projecteur qui diffuse ses images inconscientes, la couleur acajou de la peau de sa mère lui paraît plus profonde, plus foncée. Ses grands yeux scintillent comme des lucioles. Ses cheveux, coupés courts au niveau de la nuque et bouclés sur le sommet du crâne, brillent aussi. Elle porte la blouse d'infirmière dans laquelle il l'a vue pour la dernière fois ce jour-là. Sur le revers de la jambe gauche de son pantalon, de minuscules gouttes de sang qui évoquent un tatouage abstrait au henné. Dans son rêve, il tend la main. Pas celle qui arbore une montre à 12 000 dollars, mais l'autre, celle qu'il avait à 16 ans. Hélas, alors qu'il s'apprête à effleurer sa mère, celle-ci s'estompe peu à peu, tel un polaroïd au développement inversé. Et il se réveille, son nom sur ses lèvres. Sur ses lèvres persiste aussi le goût de la menthe étendue à côté de lui, un goût qui l'emplit de honte. La femme passe une de ses fines cuisses cuivrées par-dessus la sienne et murmure « Roman ?» Il y a presque de la piété dans la façon dont elle a prononcé son prénom. Il se retourne afin de lui présenter son dos. Elle lui a donné son nom de scène la veille, mais à cet instant, il ne s'en souvient plus. Fait-il. On va prendre le petit déjeuner ? Suggère-t-elle. Il change de position dans le lit et elle s'assoit, la tête appuyée sur son torse, avant de ramener les jambes contre sa poitrine. Roman ferme les yeux, inspire profondément. Murmure-t-il encore, et après avoir posé une main sur le bas du dos de la femme, il se met à tracer des cercles du bout des doigts. « On peut aller chez Mamise ?» chuchote-t-elle. « J'ai trop faim. » Son nom lui échappe, mais il peut presque le voir dans son esprit. Les lettres sont mélangées, comme dans les mots mêlés qu'affectionnait sa mère. Elle se tourne vers lui, révélant des lèvres charnues et un menton à la courbure délicate. Elle sourit, et ses yeux d'un bleu éclatant semblent pétiller. Hier, quand il lui a demandé si elle portait des lentilles, elle a fait mine de s'offusquer et lui a donné un petit coup de poing. Ses yeux brillaient comme des saphirs. Elle s'appelle Saphir. Et sa copine Genesis devait encore se trouver dans l'autre chambre, en compagnie de Khalil, l'ami de Roman. Tous les quatre avaient été invités à la soirée de lancement du nouveau single de Lil Glock 9, organisé par son label. Le but officiel était de faire le buzz sur les plateformes de streaming, mais Roman savait qu'il s'agissait avant tout pour Lil Glock de rassembler ses fans et de leur offrir une occasion de se prosterner aux pieds de leur idole. Le streaming ne rapportait pas grand-chose aux rappeurs. Les concerts et les tournées constituaient le gros de ses revenus. Et même ça, ce n'était plus aussi lucratif qu'à une époque. L'entreprise de gestion de patrimoine de Roman avait aidé Lil Glock 9, dont le vrai nom était Franklin Parrish, a maximisé ses profits sans attirer l'attention du fisc américain. Au fil des années, alors que la part du gâteau des maisons de disques augmentait au détriment de celle des artistes, ce genre d'optimisation requérait une comptabilité de plus en plus créative. Et les artistes comme Lil Glock devaient se donner beaucoup de mal pour faire croire qu'ils tenaient encore les rênes de leur carrière. Roman se rappelait confusément que Khalil lui avait présenté Saphir. puis qu'ils avaient pris sa Porsche pour foncer à Decatur, la banlieue chic d'Atlanta où se trouvait son penthouse. « Ma vieille Porsche de 2012 », songea-t-il. Roman avait beau prêcher la responsabilité financière à ses clients, rares étaient ceux prêts à conduire une voiture de plus de 10 ans, ou à louer des bijoux pour les tournages de clips ou les événements auxquels ils étaient amenés à participer. En tant que conseiller financier dans une des villes les plus opulentes des États-Unis, Roman savait qu'il devait arborer certains signes extérieurs de richesse. Mais il ne comptait pas non plus se ruiner au service de son image. « La location plutôt crevée !» avait rétorqué Lil Glock, le jour où Roman avait essayé de lui expliquer le concept de dépréciation. « Si je veux un truc, je l'achète, point !» Roman entendit une voix masculine provenant du salon, accompagnée d'un éclat de rire féminin. Khalil et Genesis étaient réveillés, eux aussi. Quelques secondes plus tard, on frappa à la porte de sa chambre. « Hé, Rome, on va manger un morceau !» dit Khalil. « Vous vous joignez à nous ?» Roman ferma les yeux et se représenta son ami de l'autre côté du battant, son imposante carrure, ses énormes phalanges tatouées heurtant le bois. Khalil assurait la sécurité de nombreuses personnalités d'Atlanta. Il nageait dans les eaux prestigieuses de l'élite géorgienne, tel un dauphin venant en aide à des marins égarés. Mais Roman connaissait la signification de ses tatouages. Il savait que Khalil n'était pas un dauphin, mais un requin. « Laisse-moi juste le temps de... » commença-t-il, avant d'être interrompu par la sonnerie de son téléphone portable. Il écarta la cuisse de saphir et attrapa l'appareil sur la table de chevet. Dehors, le soleil, dont les premiers rayons avaient enflammé les gratte-ciels d'Atlanta, baignait désormais le lit king-size d'une lueur orangée. Roman regarda l'écran alors que la mélodie de la lettre à Élise continuait à résonner dans la chambre. Nevea. Avec un soupir, il décrocha. C'était forcément une mauvaise nouvelle. Nevea n'était pas du genre à l'appeler si tout allait bien. « Salut, » dit-il. « Comment ça va ?»«
C'est papa, »
me répondit Nevea. Sa voix à peine plus qu'un murmure.
« Il a eu un accident de voiture. Il est dans le coma. Tu devrais revenir, Rome. »
Roman abandonna Khalil et les filles et se rendit au siège de Carruthers & Associates dans le centre-ville d'Atlanta, un quartier d'affaires qui voyait chaque jour sortir de terre de nouvelles sociétés d'investissement. « Dites à Simon de gérer les réunions avec la chanteuse de chez Sony », ordonna Roman à sa secrétaire Keisha, qui pianotait à toute vitesse sur sa tablette pour ne rien risquer d'oublier. « Envoyez Gary et Nick rencontrer les deux nouvelles Real Housewives d'Atlanta. Déplacez mon déjeuner avec Elian Rhodes. C'est important que ce soit moi qui lui parle. L'équipe des Falcons commence à s'inquiéter de ses dépenses à considérer. Annulez mon rendez-vous de suivi avec Lil Glock 9. Remettez à plus tard ma réunion avec le cabinet juridique Key. Et surtout, que personne ne contacte le président de Morehouse avant mon retour. « Vous pensez revenir quand ?» demanda Keisha, profitant d'une pause dans le monologue de son patron. « Quand je me serai assuré que mon père ne va pas mourir. » Son avion ne décollait qu'à 20h. Il avait beau habiter à proximité d'un des plus grands aéroports du monde, il n'avait pas trouvé de vol plus tôt. D'un autre côté, cela lui avait laissé le temps de faire sa valise, de gérer ses responsabilités professionnelles et de confier le double de ses clés à Khalil. Il était prêt à rentrer en Virginie. Mais avant, il avait un tout dernier arrêt à faire. Il consulta sa montre. Il était arrivé à l'heure à son rendez-vous. Et il attendait désormais depuis 10 minutes. Bien sûr, cela faisait partie de l'expérience, mais il était quand même un peu agacé. Il était assis dans le vestibule sobre et élégant d'une sublime demeure de style colonial, nichée au fond d'une impasse discrète qui donnait sur Peachtree Road, dans le quartier très prisé de Buckhead. Dans un coin de la pièce se consumaient des bâtons d'encens, tandis que des enceintes invisibles diffusaient une musique New Age. Roman se tapota le genou du bout de l'index alors que la chanson atteignait un crescendo. Enfin, Miss Delicate ouvrit la porte. Elle était grande, presque aussi grande que Roman, ce qui devait la placer autour de 1m80. Sa peau sombre était douce comme une nuit sans étoiles. Une longue tresse brune lui descendait jusqu'à la base des fesses, qu'elle avait rebondie. Romane lui donnait entre 45 et 50 ans. Il n'était pas évident de déterminer son âge, car elle n'avait pas la moindre ride et elle était plus musclée que la femme à côté de qui il s'était réveillé quelques heures plus tôt. Si elle avait 50 ans, cela signifiait qu'elle avait pile 15 ans de plus que lui. C'était un bon point. Non, c'était le point le plus important. « Tu peux entrer maintenant », déclara-t-elle, sur le ton de la conversation. Mais sa voix avait quelque chose de direct et d'implacable. « Oui, maman », acquiesça Romane, la langue cotonneuse. Les menottes mordirent dans ses poignets, juste assez pour qu'il sache qu'elles étaient là sans réellement lui faire mal. La douleur, la vraie douleur, arriverait dans un second temps. Pour l'heure, le contact avec les entraves métalliques lui procurait une sensation à la fois bienvenue et familière. Et il sentit sa respiration s'accélérer. Il n'avait pas peur. Ils avaient un safe word, un mot de passe préalablement choisi qui, en cas de besoin, mettrait un terme immédiat à la séance. Dès l'instant où ce mot franchirait les lèvres de Romane, il serait libre. Physiquement, du moins. Parce qu'il y avait un endroit dans son esprit, un espace reculé entre le désir et l'auto-aversion, où le temps ralentissait, où le monde extérieur s'effaçait, et où le mot de passe ne fonctionnait plus. Dans cet espace, Miss Delicate ignorait les protestations de Romane, et celui-ci réussissait à obtenir ce dont il avait le plus besoin. La pénitence, le châtiment, l'absolution. En général, il ne prenait rendez-vous avec Miss Delicate qu'une fois par mois, à moins d'avoir eu une semaine particulièrement stressante, comme le jour où un de ses clients avait voulu investir l'intégralité de ses économies, soit 40 millions de dollars, dans une start-up spécialisée dans les crypto-monnaies. Dans ce genre de situation, lorsque Romane avait l'impression d'être un atlas des temps modernes, portant sur ses épaules la vie et le patrimoine de ses clients, il s'autorisait une session supplémentaire. Il avait conscience qu'aux yeux de Miss Delicate, il était un client ordinaire, un cas d'école, le riche et redoutable homme d'affaires qui souhaite abandonner le pouvoir qu'il exerce pendant sa journée de travail en se soumettant à la domination de quelqu'un d'autre. Romane admettait que c'était en partie vrai, mais en partie seulement. Et ce n'était pas non plus l'aspect sexuel qui le poussait à revenir. Il y avait du sexe entre eux, évidemment. Mais le sexe n'était que la plume avec laquelle ils écrivaient l'histoire que Romane avait besoin de lire, encore et encore. L'histoire où ce jour funeste, il endossait l'habit du héros et empêchait sa mère de quitter la maison et de s'évaporer sans laisser de traces, telle la rosée du matin au premier rayon du soleil. Dans un claquement de talons aiguilles, Miss Delicate contourna la croix de Saint-André pour se placer juste derrière Romane. Il pouvait sentir son souffle sur sa nuque. « Est-ce que tu es désolé au moins ?» demanda-t-elle soudain. « Est-ce que tu t'en veux d'être un fils indigne ?» Sa voix était grave. Plus grave que lorsqu'elle l'avait invité à entrer. Mais elle avait aussi quelque chose de mélodieux. Un ange coiffé d'une auréole noire. « Oui, je suis désolé, maman, » murmura Romane. Miss Delicate se plaça devant lui, un martinet à la main. Lorsqu'elle libéra les lanières de cuir, celles-ci émirent un léger bruissement qui évoqua à Romane une chauve-souris déployant ses ailes. « Je ne te crois pas. » Une heure plus tard, Romane reboutonnait sa chemise Blue Giallo bleu clair pendant que Miss Delicate, ce n'était pas son nom de baptême donc, rangeait ses accessoires dans une alcôve éclairée par des LED rose pâle. Romane se disait souvent que le décor de cette pièce tenait plus du boudoir coquin que du donjon gothique. Martinet mis à part. « Je vais devoir annuler notre prochaine session », déclara Romane après s'être éclairci la voix. « Il faut que je retourne en Virginie, et je ne sais pas pour combien de temps. Mon père a eu un accident de voiture. » Et tu as préféré venir ici, plutôt que de sauter dans un avion pour te rendre à son chevet, fit Miss Delicate, sur le ton du reproche. Romane s'empourpra. Oui, c'est que...
J'ai pas souvent l'occasion de rentrer à la maison. Beaucoup de mauvais souvenirs là-bas. Ce qu'on fait tous les deux, ça m'aide à y faire face.
Miss Delicate traversa la pièce pour se planter devant lui et le regarder droit dans les yeux. Elle était si proche qu'il pouvait sentir sa transpiration. Roman avait exigé une séance particulièrement intensive, et ses désirs avaient été comblés. Derrière la sueur, il perçut un parfum de savon ou de gel douche. Et encore en dessous, son odeur naturelle, brute et enivrante.
Notre session est terminée, mais je vais quand même te donner un conseil. S'il arrive quelque chose à ton père alors que tu es ici, tu ne te le pardonneras jamais, et tu as déjà assez de problèmes avec le pardon.
Elle se pencha vers Roman et lui murmura à l'oreille.
Tu aimes te mettre délibérément dans des situations où tu seras en faute et où tu auras besoin d'être puni, quitte à te punir toi-même. Là, c'est de ton père qu'il est question. Alors file.
Je voulais simplement... Il fallait juste que...
Elle le fit taire d'un haussement de sourcils.
Ce n'était pas une suggestion, lâcha-t-elle sèchement.
Quelques heures plus tard, Roman était installé en première classe, sirotant un Jameson avec des glaçons dans un gobelet en plastique pendant que l'équipage effectuait les démonstrations de sécurité d'usage. Il avait toujours trouvé ce protocole ridicule. Pour lui, les ceintures de sécurité en avion étaient l'équivalent des casques que mettaient les gens qui faisaient du saut en parachute. L'objectif était de faire oublier un danger pourtant bien réel. De fait, dans l'histoire des collisions entre l'homme et le sol n'avait encore jamais perdu. Il vida son verre, ferma les yeux et songea à la puissance dévastatrice et imprévisible des tragédies, qui bouleversaient la vie des gens sans le moindre remords. Roman avait eu une histoire avec une spécialiste de la physique théorique. Après l'amour, elle lui parlait souvent de ses enfants, qui avaient presque l'âge de Roman. Ou bien du dernier article qu'elle avait écrit et qui avait été publié dans une revue scientifique. Mais un soir, elle avait pris un ton presque biblique et s'était mise à évoquer la nature de l'univers. « Avant, j'avais peur que l'univers soit mauvais », avait-elle déclaré. « Maintenant, j'en viens à regretter qu'il ne le soit pas. Parce qu'on peut négocier avec le mal. Le mal a un dessein, si horrible soit-il. » Mais je me suis rendu compte que l'univers était indifférent. Et je trouve ça beaucoup plus effrayant. Alors que l'avion s'avançait vers la piste de décollage, Roman songeait qu'il n'était pas d'accord avec cette analyse. L'univers était à la fois mauvais et indifférent, horrible et insensible. Un dieu haineux qui naviguait à travers le temps et l'espace sans se soucier de rien. Derrière ses yeux clos se jouait un film mettant en scène son père et sa mère, disparus 19 ans auparavant. Il les vit tous les deux s'effacer, se transformer en poussière et être emportés par le vent pendant que l'univers haussait les épaules et continuait sa route.